Bonsoir à tous, chers amis, bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien malgré ces temps particulièrement difficiles. J'ai pas fait de podcast depuis un moment parce qu'en fait, alors qu'il se passe des trucs de fou, mais en fait, plus il se passait des choses de fou et plus il y avait de choses à dire, moins j'arrivais à préparer quelque chose et préparer des gros scripts pour lancer ma chaîne. Donc pour information, je suis plus à Radio Courtoisie. Là où j'avais commencé fin août, pour différentes raisons, mais essentiellement parce que, en fait, animer une matinale, c'était pas forcément ce qui me plaisait énormément. En plus, c'était une matinale très, très, très exigeante, avec 5 interviews, 5 intervenants par jour, 5 invités à trouver, ce qui est totalement démesuré par rapport à la taille de notre équipe, et c'était pas forcément possible de bouger le format. Donc, j'ai préféré arrêter. 5 invités par jour, 15 par semaine, puisque je faisais du lundi au mercredi. Donc, petit aveu d'échec peut-être, mais en même temps, je suis beaucoup plus porté sur le contenu de décryptage, moins lié à l'actu chaude. Et c'est vrai que ça baissait la qualité. Je trouve que c'est un rythme qui baisse beaucoup la qualité. Et j'étais pas du tout fier de ce que je faisais. Donc bon, c'était une bonne expérience. Je suis tout à fait content, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais j'étais pas du tout motivé pour continuer. Hélas. Mais voilà, continuez à écouter si vous êtes des auditeurs. Et à écouter l'excellent Corentin Périgny et Maud Coffler qui se partagent du coup maintenant l'antenne de la matinale. Et du coup, depuis un mois, donc je me suis remis un peu à travailler à mon compte et je voulais lancer ma chaîne. Ce que je vais faire, hein, mais en fait, malgré toutes les dingueries qui se passent, et bah finalement. Il y avait tellement de choses à dire que j'ai même pas réussi en fait à tirer pourtant j'en ai rédigé un des scripts, j'ai écrit, mais je savais même pas où j'allais. Tellement il y a de trucs à dire, tellement ce qui se passe est en train de confirmer en fait une dynamique hein, qui est en cours en France de conflit de civilisation. Donc évidemment le conflit de civilisation est. Enfin, l'idée du choc de civilisation de Samuel Huntington, donc un livre très célèbre qui avait été très décrié parce que accusé d'appeler à la guerre entre les peuples, etc. Ce qui n'est pas du tout l'objet du livre. L'objet du livre, en fait, veut expliquer le monde entre des ères civilisationnelles qui correspondent en fait aux grandes religions, aux grands blocs civilisationnels. Bouddhiste, hindouiste, islamique, chrétien, occidental. Et en fait, ça apporte des clés de lecture très, très intéressantes. Et en fait, on voit que en fait, c'est des civilisations qui peuvent vivre en paix, même si historiquement, il y a toujours des conflits entre ces civilisations à différents moments. Mais elles ne sont pas nécessairement vouées à s'affronter. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'elles entrent en confrontation parce qu'il y a un mélange de ces civilisations. C'est tout bête, mais voilà, dans le schéma de Samuel Huntington, il y a donc l'Amérique latino au sud de l'Amérique, l'Amérique occidentale. Le bloc occidental est confondu entre l'Amérique et l'Europe, ce qui est sans doute un peu réducteur, mais il y a aussi des sous-groupes chez Huntington. Il y a le monde de l'orthodoxe, la civilisation chinoise, la civilisation bouddhiste avec l'Asie du Sud, la civilisation hindoue avec le sous-continent indien. La civilisation japonaise, évidemment, la civilisation islamique, donc qui va on va dire, de la Mauritanie jusqu'à l'Afghanistan, jusqu'au Pakistan, et la civilisation africaine. Ça, c'est les grands blocs de Samuel Huntington, et c'est hyper intéressant parce qu'il avait aussi décrit des civilisations qui étaient plus compatibles entre elles. Et c'est un livre qui avait été très décrit à l'époque parce qu'on était après la chute du mur de Berlin, à l'effondrement de l'Union soviétique. Et tout le monde croyait à ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Les dividendes de la paix, c'était une ère où on allait rentrer, il n'y allait plus avoir de conflits, et que la démocratie et le libre-échange allaient pacifier les rapports humains. Évidemment, il n'en a pas été ainsi très longtemps, puisque la guerre en Europe, au Kosovo, en Yougoslavie a éclaté. Donc la construction européenne était censée être la paix, mais en fait, il y avait encore la guerre en Europe. Le conflit en Afghanistan, des conflits en Amérique du Sud, évidemment, des conflits en Afrique, des conflits au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, entre Israël et Palestine. Et en fait, ce choc des civilisations, eh ben, on est en plein dedans, pour différentes raisons. Alors, il y a un choc des civilisations qui dure depuis longtemps, il est à l'échelle d'Israël et de la Palestine. Donc on ne va pas rentrer évidemment dans le sujet, il est extrêmement compliqué, mais il y a un affrontement, on va dire, entre un pays plutôt occidental, Israël, donc un État juif, mais avec une culture occidentale, du moins les fondateurs de cette nation étaient surtout des Ashkénazes, et du coup ils ont fait une société très occidentale, et après des vagues migratoires juives d'Afrique, d'Éthiopie notamment. Donc, on s'en est venu apporter côté africain, et après des juifs maghrébins, donc les séfarades, sont venus un peu mélanger cette palette israélienne, qui évidemment est composée à 20% d'arabes israéliens, dont une partie est chrétienne, mais la majorité est musulmane sunnite. Mais il y a eu toujours ce choc de civilisation là-bas. Civilisation islamique, mais bon, c'était aussi une question de nationalisme. Mais aujourd'hui, on est entré dans un choc de civilisation, dans le sens où, en fait, avec toute l'immigration musulmane qui a abondé en Europe et dans le monde occidental, il y a une immigration musulmane qui est importante et qui est solidaire par l'Oumma des Palestiniens. Et alors, ça fait longtemps, hein, que les musulmans d'Europe et d'Occident se disent solidaires des musulmans de Palestine. Parce que c'est au nom de l'humain, hein, évidemment. Et on peut tout à fait le comprendre. Nous, on est sensible au destin des chrétiens d'Arménie, des chrétiens du Liban, des chrétiens d'Irak. C'est normal, il y a une solidarité internationale entre des religions, bien souvent. On va dire, c'est le tiers-mondisme qui peut se comprendre, qui peut se respecter. On parlera du tiers-mondisme. Et en fait, ce choc des civilisations, donc, il se réveille chez nous. Alors évidemment, par l'immigration massive, incontrôlée, l'islamisation, la réislamisation de ces communautés musulmanes, l'islamisation de Français, parce qu'il y a beaucoup de conversions à l'islam. Mais du coup, ce choc de civilisation éclate encore plus quand, en fait, le conflit entre Israël et la Palestine s'embrase de nouveau. Et on l'a vu le 7 octobre, parce qu'évidemment, chacun a pris parti. Alors évidemment, nous, occidentaux, on voit d'autres occidentaux, entre guillemets, se faire égorger, se faire massacrer, des enfants massacrés, des civils, surtout des civils massacrés. En fait, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser, en fait, au Bataclan, à Mohamed Merah, qui, je rappelle, en 2012, tue des enfants juifs, tue des militaires, qui étaient d'ailleurs maghrébins, parce que considérés comme des traîtres. C'est impossible pour nous de pas penser à ce qu'on a vécu en Europe. Mais en face, on a des gens qui voient des musulmans souffrir donc de la réponse israélienne, forcément, parce que la réponse israélienne, elle est évidemment totalement énorme. Et ils ont rasé le nord de Gaza, parce qu'il fallait vaincre définitivement le Hamas, même si je pense que, en fait, derrière le Hamas naîtra une organisation qui sera sans doute pire, et puisqu'il y a aussi le djihad islamique qui est pareil, qui est au départ un mouvement, on va dire, nationaliste, mais qui en réalité use de méthodes terroristes, et principalement terroristes. Toute l'organisation du Hamas et du djihad islamique sont portées vers des objectifs terroristes, des méthodes terroristes. Donc c'est vrai que quand on parle du Hamas comme mouvement terroriste, c'est pas du tout abusé, même si le Hamas ne fait pas que du terrorisme, il fait aussi du social, etc. Il fait du social, il agit sur la société gazaouie, mais dans une perspective terroriste, en fait. Il présente les Juifs comme des sous-hommes, évidemment, qu'il faut évidemment tuer, et tout est destiné à ça. Les parents célèbrent la mort de leurs enfants, même les plus jeunes, parce que ce sont des héros qui ont lutté ou qui ont été des martyrs des Israéliens. Donc et bon, ça, on peut l'expliquer de plein de façons, une radicalisation évidemment, de la cause palestinienne, mais même depuis le départ, hein, très tôt, il y a des attentats à la voiture piégée, mais le tournant, on va dire, terroriste du nationalisme palestinien, il intervient dans les années 70 avec la prise d'otages et les tueries d'athlètes aux Jeux Olympiques de Munich. Forcément, bon, bah, la Oumma se porte solidaire de ces musulmans qui sont victimes de la réponse israélienne. et qui était évidente, qui était évidente. Et en fait, le Hamas est littéralement le tombeau absolu des Palestiniens et j'ai envie de dire de la cause palestinienne, même si elle a quand même encore de beaux jours devant elle, quand on voit les mobilisations en Europe, en France, plus largement dans le monde occidental. Parce que, évidemment, derrière le mot occidental, il y a un immense piège. Vous avez dû remarquer que depuis la guerre en Ukraine, ceux qui étaient les pires bien-pensants, les pires ennemis du monde chrétien, en fait, parce que le monde occidental, c'est ça, c'est le monde chrétien en réalité, les pires ennemis de ce monde occidental se sont mis à invoquer les valeurs du monde occidental pour y mettre tout dedans, hein, pour y mettre l'extension indéfinie. Et infini des droits humains. Bon, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est les LGBT et le droit à l'immigration, et toutes les saloperies possibles progressistes derrière ce mot occidental. Oui, il faut défendre les valeurs de l'Occident face à la Russie. Donc voilà, en gros, défendre la Gay Pride et l'immigration de masse et des millions de réfugiés chez nous. Donc je fais bien la distinction entre Occident et Europe, mais voilà, il y a dans le monde occidental en général. Il y a eu cette. Bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que la cause palestinienne, voilà, a quand même de beaux jours devant nous quand on voit le soutien dans le monde chrétien et le monde occidental. Mais en réalité, donc le problème de cette cause palestinienne, c'est qu'elle a cautionné, ce qui était absolument abject de la part de la France insoumise, de Révolution permanente, du nouveau parti anticapitaliste. De plein de factions d'extrême gauche, d'islamo-gauchistes qui ont vraiment soutenu et cautionné l'attaque du Hamas, vraiment, genre. Et en fait, ils prétendent que c'est une résistance, une lutte de libération nationale. Et ils pensent qu'en fait, bah oui, bah en effet, hein, c'est sûr que le FLN aurait jamais réussi à obtenir l'indépendance s'ils avaient jamais usé de moyens terroristes. Ils ont posé des bombes, ils ont égorgé des familles, des enfants. C'est évident que toutes les luttes de libération nationale en passent par du terrorisme. Mais en fait, la grande différence entre la Palestine et les combats en Algérie et tout, c'est qu'en fait, on n'est pas dans le même cas de figure. Pour la libération de l'Algérie, parce que ça ressemble pas mal, c'est une lutte de libération contre un État colonial, donc ce qui est reproché à Israël. On a un usage de méthodes terroristes. Donc, des civils massacrés, des bombes posées au hasard, des égorgements, des mutilations, etc. etc. Sauf qu'en fait, quelle est la différence profonde entre la situation en Palestine et la situation, par exemple, en Algérie ou dans n'importe quelle autre guerre coloniale? C'est qu'en fait, les puissances coloniales, européennes du moins, et c'est pour ça que la comparaison ne tient pas, c'est qu'elle n'était pas fondamentalement chez elle. C'est que quand la France était en Algérie, occupait l'Algérie, c'était évident que la France n'était pas dans une terre française. Alors évidemment, les colons français qui sont arrivés ont fait un travail admirable et incroyable d'assèchement des marais, de fertilisation, de travail de la terre. Ils étaient là depuis des centaines d'années quand ils ont été chassés. Ils avaient leurs parents qui étaient enterrés là et je ne pourrais jamais reprocher à ces gens de continuer à dire que c'était chez eux, etc. On peut le comprendre, ils ont acheté leur terrain. Voilà, faut savoir que vous achetez imaginez, vous mettez toute votre vie dans l'achat d'un bien, d'une terre que vous faites prospérer, et du jour au lendemain, presque, on vous en chasse, et vous êtes forcé de la quitter. Mais ce qui était évident, c'est que c'était pas la terre des Français, c'était pas la terre des Européens. Il y avait des peuples qui vivaient là, des peuples berbères, des peuples arabisés, etc., qui eux-mêmes avaient colonisé en soi des Amazigh et des Berbères, etc. Donc c'était dans le sens de l'histoire du XXe siècle, de toutes les luttes de libération, c'était dans le sens de l'histoire qu'un jour ou l'autre, les Européens allaient rendre leur terre, la population historique et majoritaire autochtones, à savoir voilà, bon, les Algériens, ou bien les Tunisiens, les Marocains, etc., même si le Maroc n'était pas colonisé, mais c'était un protectorat. Mais voilà, dans tous les pays d'Afrique, c'était un peu ça, le Vietnam, etc. Sauf qu'en fait, en Palestine, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, les Israéliens ont obtenu cet État. Alors je sais qu'il y a eu des conquêtes militaires et de la colonisation, mais le gros du découpage d'Israël remonte donc à celui de l'ONU en 1948, et que du coup, c'est leur terre. c'est indéniable qu'il y a toujours eu des juifs sur cette terre depuis 3000 ans, on va dire. C'est pas les premiers à avoir habité cette terre, mais ils l'ont développé, ils ont établi des royaumes, il y en a toujours eu. Ils ont été, alors il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, les Romains ensuite qui les ont occupés, puis les Arabes, les Ottomans, etc., etc. Je connais pas bien l'histoire, mais voilà. Mais il y a des Juifs qui ont toujours été présents en Palestine. Et vu qu'on parle de Napoléon en ce moment avec la sortie du film, bah Napoléon a même fait face et a même durement réprimé des Juifs à Jaffa quand il a débarqué à Jaffa. Donc il y a eu toujours des Juifs en Palestine, etc. Et juste, l'idée du sionisme au départ, c'était la mise à l'abri du peuple juif qui était persécuté depuis des milliers d'années un peu partout où il allait, parce qu'on ne lui accordait pas les mêmes droits et c'était un peuple errant, etc. Bref. Et l'idée de départ du sionisme était de donner un foyer juif, un foyer pour le peuple juif. Et c'était la mise à l'abri du peuple juif. Et du coup, ce découpage est accordé, et on accorde une terre aux Juifs. Et à partir de ce moment-là, les Juifs vont développer un pays à la vitesse de la lumière, une armée, voilà, des institutions, un État. Voilà. Ils ont créé un État de rien, dans un désert, dans une région très peu fertile, juste, on va dire, entre Jérusalem et la Méditerranée, entre Naplouse et la Méditerranée, il y a une bande un peu fertile. Mais c'est désertique, c'est des paysages hyper arides, etc. Il y a juste au nord d'Israël où c'est plus vert. Bon, maintenant ils ont chopé le Golan aux Syriens, mais le Golan, voilà, est très verdoyant, etc. Mais sinon c'est une terre aride. Ils ont construit un pays de nulle part. C'est leur terre. Pour eux, c'est la terre historique du peuple juif. Et donc les Palestiniens pourront lutter, pourront revendiquer autant qu'ils veulent cette terre. C'est aussi la terre des Juifs pour eux, pour ces Israéliens. Et c'est pas illégitime du tout. Évidemment, sans rentrer dans les controverses interminables, mais c'est indéniable. C'est indéniable et ça sert à rien d'essayer de nier aux Juifs, au peuple juif, cette terre, puisqu'elle, en partie, du moins, au moins, en partie, elle leur appartient, c'est sûr et certain. Historiquement, etc. Et il y a plein de Juifs qui sont restés là. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'elle leur appartient depuis au moins 1948. Et du coup, on n'est pas du tout sur un peuple qui, un jour, comme les Français d'Algérie, seront lâchés par l'État central, par la métropole, comme De Gaulle, bah, a abandonné l'idée d'Algérie française et a marché vers l'indépendance. Et comme tous les autres pays, bon, les Anglais, c'est resté dans le Commonwealth. Mais bon, l'Inde est gérée par les Indiens, et les Indiens effacent de plus en plus la trace anglaise, au point qu'ils vont sans doute changer de nom et s'appeler. J'ai oublié le nom. Mais ils vont changer de nom. Ça s'appellera plus, ça s'appellera plus India, mais ça aura un autre nom. Et donc en réalité, il y a une lutte. En fait, la lutte anticoloniale, elle peut porter. Voilà, ça va s'appeler Bharat. L'Inde s'appellera sans doute Bharat. Mais voilà, la Palestine, en fait, continuera d'être disputée par Israël tant qu'Israël sera capable de se défendre. Et c'est pas prêt de s'arrêter, en fait. Donc en fait, on n'est pas du tout sur une configuration de libération. On est face à un État qui existe, une nation qui existe, il y a un patriotisme qui existe. Si vous voulez, c'est comme les Russes qui considéraient qu'il n'y a pas de nation ukrainienne. Et bien en fait, si, la nation ukrainienne, elle est là. Et plus elle est attaquée, la nation ukrainienne, plus elle se renforce et plus elle s'imprime. Même si l'Ukraine, en effet, est composée de russophones, de polonais, un peu de roumains, il me semble. Elle est composée de plein d'ethnies différentes, de langues différentes. Mais en fait, la Russie, en envahissant l'Ukraine, a voilà, renforcé la nation ukrainienne pour 1000 ans même, j'ai envie de dire. Pour reprendre une formule douteuse et sulfureuse. Mais il en est de même pour Israël. Israël, maintenant, est une nation. Et il y a même des Bédouins arabes, des musulmans arabes qui se battent pour Israël, qui font le service militaire. Donc c'est même pas une nation purement ethnique. Évidemment, c'est une nation religieuse, parce qu'en fait les Juifs sont de plein d'ethnies. C'est une nation religieuse qui a comme substrat commun le judaïsme. En tout cas, pour acquérir la nationalité israélienne, soit vous avez des parents israéliens, soit vous êtes juif si vous arrivez de l'étranger. Ça, c'est sûr. Voilà, on n'est pas du tout dans la même configuration d'une lutte de libération nationale. Donc ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas prétendre que la lutte la lutte palestinienne soit une lutte de libération nationale, puisque de toute façon, Israël est une nation. Par contre, oui, le combat peut porter sur la colonisation totalement illégale de territoires palestiniens. Et là, pareil, ce sera compliqué parce qu'en face, il y a des gens qui sont déterminés à récupérer ce qui est pour eux, historiquement, bibliquement, la Judée Samarie, qui était des terres juives et qui pour eux leur appartient. Mais là, en effet, là, oui, on peut parler de combat et de libération nationale anticoloniale. C'est certain. Voilà. Donc en fait, on a des tartuffes chez nous qui nous font passer cette guerre Hamas-Israël pour une guerre de libération, alors qu'en fait, le Hamas est à le Gaza est le territoire le plus financé de la planète quasiment. Je veux récupérer les chiffres, mais si vous voulez, il y a des centaines de millions d'euros qui sont versés par l'Iran, par le Qatar, par la Turquie, par l'Union européenne même. Il y a des moyens absolument gigantesques. Et pourtant, le Hamas ou les organismes palestiniens auraient eu tous les moyens pour développer cette bande de Gaza pour qu'elle soit forte et pas une petite enclave hyper faible. Et bon, évidemment, elle est très isolée diplomatiquement, etc. Mais on voit bien que les buts terroristes du Hamas depuis des années a fait perdre un temps fou à Gaza évidemment et à la Palestine. Alors, second sujet, pourquoi en fait le conflit en Israël finalement il nous concerne indirectement ou directement? Alors en fait l'idée c'est pas tout le temps de prendre le parti d'un des deux camps, puisqu'en effet c'est délicat, c'est vrai qu'on a des Palestiniens qui sont chez eux dans leur territoire, c'est leur terre depuis quelques centaines d'années. Et nous, on est pareil. Nous, on n'a pas envie de se faire remplacer, on n'a pas envie de se faire envahir, on n'a pas envie d'être colonisé comme ça nous arrive, et on veut se défendre. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, si un jour on n'a plus le choix, bah, est-ce qu'on utilisera aussi des moyens, la violence pour se libérer? Évidemment, hein, la France, c'est pas la première fois que la France utilise de moyens pour résister contre un envahisseur. Parce que qu'on le veuille ou non, évidemment, c'est pas une invasion, c'est pas une colonisation. Je pense que ce sera le sujet d'un podcast, mais évidemment, c'est pas une colonisation par le haut. C'est pas une armée qui arrive avec des chars, avec des avions de combat, avec des navires pour envahir un pays. Mais c'est une colonisation de fait par le bas. Il y a des quartiers où des Français, je dis pas des policiers ou des militants nationalistes, comme on a vu à Romans, ne peuvent pas rentrer. Des Français, je dis bien juste des Français ou des journalistes français. Qui sont suspects parce qu'ils apportent une caméra alors que n'importe où, c'est pas suspect d'avoir une caméra en France, et qui rentrent, leur origine et elle a pas l'air si exotique, c'est louche. Il y a des hiérarchies parallèles, c'est des trafiquants qui gèrent la répartition des ressources, du territoire, les accès aux immeubles. Il y a une administration, il y a une sécurité sociale parallèle parce qu'en fait le deal fait le trafic de drogue fait vivre énormément de personnes. C'est des gens qui s'organisent communautairement, mais en fait c'est naturel. C'est qu'en fait les républicains abrutis, les jacobins débiles universalistes condamnent ça. En fait, ils condamnent ça parce que ce serait parallèle et que ça échapperait aux mains de l'État. Mais en fait c'est même pas ça le problème. C'est naturel en fait que les gens s'organisent entre communautés, ont envie de vivre entre personnes qui leur ressemblent. Ils ne se reconnaissent pas dans la société française tout court et a fortiori la société française de 2022, de 2023, extrêmement progressiste, laïcisée, athée. Enfin, du moins, c'est la vitrine. Quand on gratte un peu, les Français restent quand même attachés à un certain nombre de valeurs qui restent ancrées. Mais évidemment, bon, après, vous avez tous les sondages et leurs questions tordues. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui vivent de toute façon, qui ont envie de vivre entre eux, et c'est normal, les Français aussi ont envie de vivre entre eux, ils n'ont pas envie spontanément de se mélanger à d'autres populations. La vie est assez difficile comme ça pour en plus se rajouter des échanges interculturels, interreligieux. Non, en fait, quand la vie est compliquée, quand la vie est dure, quand la vie est chère, quand les problèmes de famille sont là, en fait, on a envie d'être entre nous, on n'a pas envie de se poser en plus des questions, on n'a pas envie de se rendre la vie difficile, et on a envie de vivre entre nous, on a envie de vivre avec des gens qui ont les mêmes repères que nous. Et c'est le fait de vivre entre personnes qui ont les mêmes repères que nous qui nous permet mieux de se tourner vers la différence quand elle n'est pas envahissante. Et moi, vous imaginez bien que je ne suis pas un cosmopolite, loin de là, et vraiment, j'aime vivre avec des gens qui me ressemblent, culturellement, mais vous imaginez même pas comment je suis passionné par découvrir les autres cultures. Pour vous dire, je vais faire mon voyage de noces en Turquie, parce que c'est un pays que, alors évidemment, avec l'actualité d'aujourd'hui, je comprends qu'on déteste ce pays, mais c'est un pays magnifique, avec un peuple ultra serviable, extrêmement sympathique. Voilà, toute considération politique et historique mise de côté. Voilà. C'est par exemple en Turquie, j'ai adoré être en Turquie, j'ai adoré aller découvrir le Liban, que j'ai vécu en Israël, j'ai adoré découvrir la société israélienne, découvrir la société palestinienne dans les territoires où j'ai pu me rendre parce que j'avais le passeport diplomatique. Bon, c'est pas moi qui étais diplomate, mais voilà. Je suis fasciné par découvrir les autres cultures. Évidemment, je suis d'abord intéressé par la mienne, je ne suis pas un débile qui passe son temps à vivre à l'étranger et ne jamais s'intéresser à sa culture. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vachement digressé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des hiérarchies parallèles, parce qu'il y a des gens qui sont organisés entre eux, qui ont rétabli leur façon de fonctionner, leurs règles, leurs mœurs. Et c'est naturel. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas chez eux. Et il y a d'autres lois, d'autres principes, d'autres mœurs chez nous, et on a envie de côtoyer des gens comme nous, qui nous ressemblent, qui ont les mêmes mœurs, qui ont les mêmes repères, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et évidemment, on a aussi plein de Français qui on n'est pas sur la même longueur d'onde, et vous pouvez pas savoir comme ça peut nous meurtre, comme ça peut me meurtrir et vous meurtrir également. C'est désolant, mais voilà, en général, on a quand même plus en commun avec des gens de notre peuple qu'avec des personnes qui ont totalement construit et ont reconstruit les sociétés depuis desquelles elles viennent, desquelles elles sont originaires. Donc tout ça pour dire, et ben j'ai oublié le fil. Je parlais des hiérarchies parallèles dans certains quartiers. Et ces gens, voilà. Donc pourquoi ça nous concerne en France? Parce qu'en fait, nous aussi on est chez nous. Comme les Palestiniens, on n'a pas envie de se faire envahir. Et on se fait envahir. Voilà, c'est cette colonisation vers le bas dont je parlais. Et une colonisation vers le bas. Et un jour, ça va exploser. On est à un degré de laisser-faire actuellement qui est absolument abject. Là, à Crépol, on a eu une tuerie hallucinante, anti-française, anti-blanche. Donc, en plus d'avoir des zones qui nous échappent totalement, qui échappent totalement à la France, pas juste à la République, c'est ridicule de dire ça. J'ai envie de dire, c'est même des territoires gagnés par la République. C'est que c'est des territoires qui sont intégralement républicains, c'est-à-dire où on a effacé culturellement tout ce qu'il y avait, on a fait la table rase et on a remplacé par autre chose. Sauf que la nature a horreur du vide. Hein. Il y a des populations qui viennent, mais en fait, le matérialisme abruti des républicains, il est vite mis à défaut parce que des populations. En fait, quand vous traînez des populations, c'est pas juste des bons hommes qui arrivent comme des pions. Ces gens charrient avec eux ce qu'ils représentent, ce en quoi ils croient, ce qu'ils aiment faire dans la vie, ce à quoi ils adhèrent. C'est aussi simple que ça. Et donc un jour, nous, on voudra récupérer ces territoires qui nous échappent. On voudra reprendre la main sur notre démographie. Et du coup, ça nous. En fait, c'est une leçon. En fait, cette haine qu'il y a entre les Palestiniens et les Israéliens, elle est terrible, elle est horrible. Mais en fait, elle nous montre des peuples qui vont se donner jusqu'au bout pour défendre leur terre. Parce que chacun défend sa terre, hein, dans sa tête. Au-delà de qui a raison et a tort, du coup. Est-ce que nous, on sera capable d'aller sacrifier nos enfants pour défendre notre terre, notre peuple, comme le font les Israéliens ou comme le font les Palestiniens? Ça, c'est la grande leçon. C'est la grande leçon de ce conflit. La deuxième leçon, c'est aussi celle en fait, de se rendre compte que, encore une fois, les situations sont différentes, mais on a des gens qui usent des mêmes méthodes que le Hamas là-bas. Et du coup, j'ai tendance à dire beaucoup en ce moment sur Instagram, West is next. Donc l'Occident suivra. L'Occident est le prochain. Bon, en l'occurrence, on n'est pas les prochains, ça nous est déjà arrivé. Il y a même eu des attentats depuis à Berlin avec les attentats de Septembre Noir, c'était bon, c'était un groupe palestinien, c'était la Ligue, bref, c'était le mouvement palestinien de base là, qui a fait ces attentats avec le groupe Septembre Noir. Après, on a eu les attentats du GIA, donc du groupe islamiste algérien. Et on a eu les attentats au début des années, il y a eu le 11 septembre. Il y a eu des attentats dans les années 2000, 2000, puis les années 2010. Et les années 2010 ont été marquées, voilà, 2012, 2015, etc. Et du coup, en fait, on se rend compte que tout ce qui se passe là-bas arrive chez nous concomitamment. Parce que ça donne une force énorme, en fait, à c'est la, comment dire, c'est la zone grise. Cette zone grise entre une masse musulmane, une masse de population musulmane qui n'est pas radicalisée, etc., et une frange radicalisée. Et il y a une zone grise qui est entre les deux. Dans cette zone grise, il y a des gens qui peuvent très vite basculer chez les gens radicaux. Ça arrive, on l'a vu, l'attentat de la préfecture de Paris en 2018, je pense. C'était ça, c'était un type qui s'était radicalisé assez vite. Voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, ce qui se passe là-bas donne une énorme force à ces islamistes. Parce qu'en fait, on est perçu comme les Israéliens en réalité. Et c'est ça le problème de ce conflit, c'est que c'est nous les autochtones, mais on est vu comme des colons. Et c'est normal, parce qu'on est décrit par la gauche, on est décrit par les islamistes, par les frères musulmans qui ont forgé le concept d'islamophobie, on est vu comme des Israéliens, à savoir des racistes, puisqu'on fait on a pris une terre, enfin, eux, ils ont pris une terre qui était la leur, et nous, on leur a pris une terre dans leur pays à l'époque, quand on a colonisé. On est vu comme des islamophobes. Parce qu'en fait, on dit que c'est un problème l'islamisation, que le voile, qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile. Et c'est normal qu'ils trouvent ça scandaleux, parce qu'en fait, ça fait 40 ans qu'on fait une immigration en mode non, mais venez comme vous êtes, il n'y a pas de souci, la France est un hôtel, il n'y a pas de problème. Et 30 ans après, on leur dit ouais, en fait, la baïa, ça peut être possible, le burkini, ça ne va pas être possible, le voile intégral, ça ne va pas être possible. Oui, mais en fait, vous avez dit, cette gauche mondialiste, cette droite mondialiste a dit à ces gens, non mais venez comme vous êtes. Et maintenant on leur dit, non non mais enlevez votre voile. Normal que ces gens ils pètent des câbles et qu'on les prenne pour des islamophobes. En fait les gens ils n'ont pas le temps des nuances. Il y a que des bolosses comme nous pour faire des nuances de toute façon. Eux ils font pas la nuance. Vous m'empêchez de porter mon voile alors que ça fait 40 ans que je suis censé faire ce que je veux. Vous êtes des enculés. Vous êtes des islamophobes. Et évidemment ils comprennent pas qu'en fait on n'a pas envie de devenir un pays musulman. Mais pareil. La France s'est présentée comme un pays non musulman, non chrétien, laïque, sans religion, etc. Donc forcément, les mecs, ils disent, mais en fait, l'athéisme, c'est pas possible, on a envie de vivre une religion. Alors, évidemment, nombre d'entre eux sont aussi conquérants, ils ont un côté très, voilà, un peu conquérant, montrer ça, être très, très ostentatoire, c'est pas que de notre faute, faut pas non plus que se flageller. Mais ce qui est certain, c'est que du coup, on est vus comme des racistes, parce qu'on a été des colons. On est vu comme des islamophobes et on est même vu comme des néocolons, dans le sens arrêtez de vous voiler, assimilez-vous à la culture. Bon, les mecs sont là, venez en tenue républicaine, non, la laïcité c'est pas ça, ils comprennent pas la laïcité. Bref, un gloubi-boulga. En fait, leur réponse au port du voile, c'est adhérer à rien, adhérer à la laïcité, adhérer au vide. Mais c'est contre-productif, ça ne produit que des effets extrêmes, complètement inverses. Parce que nous-mêmes, en fait, ces abrutis d'universalistes, de républicains laïcs, ils ne comprennent pas qu'il y a 40 ans, nos mères portaient aussi des foulards, putain, mais c'est. Nos religieuses portent des voiles, notre Vierge Marie partout porte un voile. Le problème n'est pas le voile en tant que tel. Évidemment, c'est complètement passé de mode aujourd'hui pour nous. Mais le problème, c'est juste que ce soit un voile islamique et que ça témoigne d'une progression démographique et civilisationnelle étrangère à la nôtre. C'est ça le problème du voile. Et ces bolosses de républicains qui mettent sur le même plan la mantille, le voile des nonnes et le foulard que nos grands-mères portaient. Bah évidemment, du coup, en face, ils se foutent de notre gueule et ils montrent la Vierge Marie qui porte une abaya. Littéralement, la Vierge Marie porte une abaya parce que c'est un vêtement large, c'est un manteau avec un voile. Enfin, évidemment, ça a rien à voir, mais vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est un vêtement long, etc. Donc, tout ça pour dire, c'est voilà, on est vu comme des islamophobes, et du coup, en fait, il y a une communauté, il y a cette oumma, donc il y a cette oumma, allez, on va pas faire d'amalgame, on va dire, cette oumma islamiste qui voit les Israéliens et les Français, on va dire, laïco-identitaires, pas bah, comme les mêmes, en fait, comme des gens qui sont contre eux, qui sont opposés avec eux et qui leur veulent du mal. Et du coup, bah, ça donne des mecs qui attaquent 2 jours, une semaine après l'attaque du 7 octobre, un mec qui vient dans un collège et qui bute un professeur, avec des tentatives de meurtre devant, et des injures, des menaces contre des juifs. Bref, plein de types qui lâchent des Allahu Akbar, un attentat à Bruxelles. Bref, ça n'a pas arrêté. Dans toute l'Europe, en Allemagne, je vous assure, j'ai fait un thread sur X, donc sur ex-Twitter. J'avais fait un thread sur l'antisémitisme en Allemagne. J'avais juste fait une recherche et j'étais tombé. Mais en fait, j'étais choqué. Je vous jure, j'étais choqué. Je savais qu'en France, les Juifs étaient visés. Voilà, il y a eu Mohamed Merah, il y a eu l'hyper cacher, etc. Je savais qu'ils étaient visés, que c'était pas fou pour eux. Mais en Allemagne, dites-vous qu'il y a eu des émeutes depuis 2018, des émeutes dues à l'immigration de réfugiés syriens, en grande partie, des émeutes antisémites devant des synagogues qui ont été incendiées. Et après l'attaque du Hamas, c'est des synagogues qui ont été incendiées. Eux, ils ne font pas la différence. Israël, c'est les Juifs. Et même les Juifs qui n'habitent pas en Israël, qui habitent en Allemagne, sont aussi coupables. Mais je sais pas si on se rend compte, genre, en Allemagne, 70 ans après l'Holocauste, il y a des types qui veulent buter des juifs comme tels en Allemagne. C'est une dinguerie. Et c'est massif. C'est massif en Allemagne. Si vous voulez, nous en France, la question de l'antisémitisme islamiste, mais à côté, c'est tranquille en France. C'est déjà problématique, évidemment, extrêmement problématique. Mais en Allemagne, c'est n'importe quoi. C'est terrifiant. Et en fait, ça donne de la force à tous ces gens. Donc, ce qui s'est passé après les attaques du 7 octobre, c'est qu'en fait, on a des massacres de juifs, donc on va dire des pogroms modernes. On a des massacres de juifs. Et il y a une réponse de l'armée israélienne, forcément, parce que c'est une guerre. Bonjour. Parce qu'on a égorgé des femmes enceintes et des bébés. Et on a des mecs qui viennent brûler des synagogues. Mais ils sont pas venus brûler l'ambassade d'Israël, parce que d'accord, là on pourrait comprendre. Ça s'inscrit dans le côté conflit. Et encore, enfin, bonjour le côté conflit quand c'est une attaque exclusivement contre des civils. Hein, parce qu'il y a eu, sur 1000 morts, il y a eu 700 civils. Hein, donc 70% des morts de l'attaque étaient des civils. Et des gosses. En fait, on a une réplique inévitable de ce conflit chez nous. Et en fait, ça donne une force immense. Et demain, en fait, et ce qui se passe, c'est que demain, après, il y a l'extrême gauche. Et l'extrême gauche vient se rajouter à ça. Et l'extrême gauche, en fait, encourage, en filigrane, encourage cette intifada qui s'importe. Parce que finalement, l'extrême gauche, elle dit pas autre chose. Pour elle, les Français, elle va jamais dire les Français, mais les Français pensent à 70% qu'il y a trop d'immigration, 60% que l'immigration est une menace, à 65% que l'immigration extra-européenne est trop nombreuse. Enfin voilà, il y a une France, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui considère, centriste, etc., qu'il y a trop d'immigration en France. Et que l'islam pose un problème civilisationnel. Donc en fait, voilà, pour cette extrême gauche, c'est une évidence qu'il y a une France islamophobe, il y a une France raciste, il y a une France néocoloniale qui veut imposer ses codes alors qu'on est chez nous en fait. Et que du coup, en fait, eh ben, il y a une intifada, il y a tous les ingrédients en fait pour une intifada chez nous. Alors que c'est nous les autochtones, hein. C'est pas nous qui c'est, à la rigueur, si on, c'est pas nous les, si on prend leur terminologie, c'est pas nous les colons israéliens. Nous, on est chez nous, c'est en face en fait les colons. Mais on a cette extrême gauche qui est anti-européenne, qui est anti-française, qui veut voir la culture autochtone être définitivement effacée par leur mauvaise conscience complètement névrotique. Parce que c'est des névrosés, ces gens sont des névrosés. Quand on voit ce qui se passe, enfin, on peut être d'extrême gauche et reconnaître en fait que l'immigration, il n'y a pas de problème, mais que ça peut pas être 5 000, ça peut pas être 2 millions en 5 ans, que ça peut pas être 25 millions, 20 millions en 30, 40 ans. En fait, je vois pas le problème entre être poutou et dire en fait, on va défendre les travailleurs, les travailleurs immigrés, mais juste on va couper le robinet et on va défendre les travailleurs qui sont déjà là. Et on va éviter qu'ils deviennent islamistes. Je ne comprends pas en fait. Donc j'estime que cette extrême gauche est complètement. Elle a un poison intellectuel qui l'empêche de sortir de ses dogmes et c'est névrotique. En fait, quand on voit comment les gens sont capables de défendre les attaques du Hamas, d'excuser la racaille actuellement, de refuser les. De refuser d'accepter le motif de racisme anti-blanc pour l'attaque de Crépol. On a une extrême gauche qui est complètement névrotique et elle ne sera pas raisonnée. Ça ne passera pas par la raison. C'est impossible. Il faut que ces gens le sentent en eux-mêmes ou que ou qu'en fait ou que je sais pas, ils vivent en fait, ou bien que tout le, je sais pas, que toutes les personnes de leur parti leur tournent le dos pour des raisons personnelles et qu'ils soient blessés au fond d'eux, qu'ils soient blessés physiquement, ça ne peut pas passer par la raison, ou du moins ça va être extrêmement lent, parce que à ce niveau d'endurcissement, parce qu'il y a énormément de personnes d'extrême gauche qui passent à droite et même très très à droite, mais il y en a certains qui vont encore plus loin. Et Jean-Luc Mélenchon s'est radicalisé, mais de façon hallucinante. Son discours en 2017 n'avait rien à voir avec celui-là. Son discours en 2012 et son discours même avant n'avaient rien à voir. En 2012, Mélenchon, il expliquait encore que le voile était un objet d'oppression pour les femmes. Et maintenant, il défend le burkini, l'abaya, etc. Pardon. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ce conflit en Israël, en fait, renforce en fait le conflit de civilisation qui arrive chez nous, dans le sens où l'extrême gauche voit les Français, voit l'État français, la police, comme les Israéliens ou la police ou l'armée israélienne. Typiquement, les émeutes de Naël sont des intifadas. La police est raciste, elle tue nos frères, on se soulève, on brûle, on pille et on tue s'il faut. Donc en fait, après des semaines d'émeutes, après et l'impunité totale, vous imaginez bien comment cette racaille est enivrée d'impunité et comment elle en vient à massacrer des gens dans une soirée en campagne. C'est totalement ça. Et tout ça est rejoint, et tout ça en fait se recoupe quand on entend un proche donc de la bande qui a attaqué Crépol, un gars qui s'appelle Karim et qui dit que tous les gars qui ont attaqué la soirée de Crépol, c'est leurs potes et c'est leurs voisins de la Monnaie. Et bien en fait, lui, il explique, mais il ne se sent pas touché par la mort de Thomas. Parce qu'il devait être au courant de cette expédition punitive, qu'en fait, c'est qu'il y avait, en gros, il y a sans doute eu une bagarre en fait, entre des rugbyman et des gars de la Monnaie. Et les gars de la Monnaie sont venus se venger à coups de couteau. Donc ce gars était sans doute très au courant de tout ça. Donc il dit, mais qu'est-ce que je voulais, pourquoi vous voulez que je me sente touché par la mort de ce gamin alors qu'il y a un nettoyage ethnique à Gaza? C'est ces mots, hein, quasiment texto. Donc en fait, c'est simple, il se sent touché par les Gazaouis parce que, Oumma musulmane, parce que ce sont des Arabes et des musulmans, il se sent touché par, et je peux le comprendre, il se sent touché par eux, mais ils ne se sont pas touchés par Thomas. Parce qu'il n'appartient pas au peuple français. C'est un Français purement administratif. Ça aussi, c'est un sujet qui est passionnant. Mais on a sur notre sol des centaines de milliers de Français administratifs. Administratifs, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes droits parce qu'ils ont la nationalité légale, mais ils ne sont pas Français. C'est je sais pas comment on appelle ça, une métonymie ou une métaphore. Mais vous faites naître une vache dans une écurie, elle ne devient pas un cheval, elle devient une vache, elle reste une vache. Et en fait, moi, si demain, je vais vous donner une anecdote. Mon petit frère, il est né en Afrique. Il est né dans un pays d'Afrique. Il est blond aux yeux bleus. Alors, on n'est pas resté longtemps en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas ivoirien, pour rien au monde. Et même s'il avait grandi en Côte d'Ivoire, mais qu'il avait continué à vivre dans le campement de Français où on était, il serait pas devenu un Ivoirien. Et en fait, on a des gens qui naissent en France, mais qui sont totalement baignés dans une culture étrangère. Et même quand ils vont à l'école, ils sont entourés de copains. Alors oui, ils vont à l'école française, en fait. Et c'est en cela qu'ils se sentent colonisés et qu'ils nous voient comme des colons. Et c'est pour ça que la grille de lecture palestinienne, en fait, la grille de lecture anti-sioniste, anti-israélienne, s'applique tout à fait chez nous. Parce que, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est pour eux l'école et pourquoi ils tuent nos profs? Parce qu'en fait, l'école, c'est la seule chose. Je peux faire une comparaison tout à fait qui est exact, où c'est exactement ça. C'est comme les petits musulmans, les petits arabes, les petits algériens de nos colonies à l'époque qui allaient à l'école française, qui allaient dans les écoles françaises. Ils apprenaient l'histoire d'un autre peuple, comme on dit, enfin je sais pas si c'est vraiment la réalité où on apprenait nos ancêtres les Gaulois, mais ils apprenaient le français, l'histoire de France, etc., la grammaire française, un peu de mœurs françaises. Il n'y avait pas de catéchisme parce ils n'étaient pas convertis à l'école. Donc en fait, c'est exactement ça. En fait, les Algériens en France, qui sont arrivés les premiers en France, leurs petits-enfants ont la même école. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont entre Algériens, entre Maghrébins, entre Africains. Et ils vont à l'école française, mais c'est tout. Et après, ils retournent entre eux, vivent dans leur quartier, où il n'y a que des étrangers, etc. Et ils voient quelques Français dans certains magasins. C'est exactement comme l'Algérie française. C'est exactement ça. Donc en fait, il y a une sorte de... C'est incroyable, en fait, comment finalement l'Algérie française s'est déplacée temporellement et s'est reconstituée, mais en France. Mais c'est déplacé en France où, bah en fait, ils vivent entre Algériens, entre Marocains, entre Tunisiens, mais voilà, ils vont à l'école française, etc. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, voilà, je disais ça pourquoi j'ai oublié. Oui, il n'y a pas de prise avec la culture française. Voilà, c'est des Français administratifs, donc ils jouissent des mêmes droits français, donc ils ont le passeport français s'ils veulent voyager. Il y en a qui en sont très fiers, comme on avait vu pendant la Coupe du Monde face au Maroc. Il y a des mecs qui étaient là. Moi, j'adore la France parce que j'ai le passeport rouge, mais sinon, moi, c'est le Maroc. Et on l'a vu, ce même Karim, là, qui faisait les vidéos pour expliquer qu'il ne se sentait pas touché par la mort de Thomas, dire qu'il adorait la France parce qu'il y avait la CMU, parce que le dentiste gratuit, parce que la carte Vitale. Ah oui, c'est des super avantages hein, qu'il n'a pas chez lui, mais il n'aimait pas les Français. Mais oui, pourquoi il aimerait les Français? Il ne vit pas avec eux, les Français ne lui ressemblent pas. Il n'a pas de liens, des liens familiaux, des liens religieux, des liens ethniques même. Il n'y a pas de lien avec ce peuple. Donc évidemment qu'il ne s'y sent pas appartenir. Donc en fait, on refuse en fait de voir comment l'homme juste vit en communauté naturellement avec des gens qui lui ressemblent. Et voilà, et donc on a sur notre sol des Français administratifs. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Mais voilà, en fait, qui sont face à un. Voilà. En fait, c'est simple, on a plusieurs peuples qui vivent sur ce territoire. Et on a des peuples qui considèrent les peuples autochtones, aidés, évidemment, aidés et alimentés par une extrême gauche, qui n'adhèrent pas à ce peuple et qui n'est pas encouragé à y adhérer. De toute façon, il y a des limites, évidemment, à l'assimilation. En fait, l'assimilation était, je pense, encore possible jusque dans les années. Je sais pas, peut-être 2010, 2015, mais depuis ces générations, il y a trop de gens parmi eux, même si ça continue, hein, des individualités ou beaucoup d'individualités, mais ces gens ne grandissent pas dans la société française. Comme je dis, ils vivent comme en Algérie française, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école française, ils sont entre Algériens, mais ils ont leur commerce, ils vont à la mosquée, ils sont entre eux ou pas, hein, d'ailleurs, à la mosquée, mais ils sont entre eux culturellement. Donc voilà. Donc en fait, l'intifada est là chez nous. Pour les mêmes raisons, parce que nous sommes vus comme des colons, comme des racistes et des islamophobes, et on a une extrême gauche qui se sert de ces gens pour ses buts politiques, pour sa révolution sociale qu'elle voudrait voir advenir. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 47 minutes, mais je pense que j'ai plein d'autres choses à dire, notamment pourquoi en fait finalement Mélenchon va pas perdre tant de plumes que ça, parce que là on a l'impression que Mélenchon qui a soutenu le Hamas, enfin indirectement, mais celui qui n'était pas du tout outré par ce qui se passait, qui s'est passé dans les kibboutz, c'était très relatif et il y a eu un soutien totalement démesuré la lutte palestinienne. Mais en fait, voilà, Mathilde Panot, Daniel Obono, qui ont refusé de qualifier même le Hamas d'organisation terroriste, parce que oui, c'est certes un mouvement de résistance nationale au départ, mais quand elle emploie à ce point-là des méthodes terroristes, je pense qu'on peut légitimement l'appeler terroriste, et c'est pas leur faire injure, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Parce que, en fait, eux, le but est de capturer, de tuer le maximum d'Israéliens. Donc, en fait, ils en ont rien à foutre. Mais voilà. Évidemment que c'est pas que ça, et c'est ça. C'est que, aussi souvent, la notion de terrorisme, oui, il faut pas non plus juste appeler le Hamas terroriste. C'est pas que ça, en effet. Parce qu'après, en fait, on oublie que derrière le terrorisme, il y a toujours des buts politiques. Et c'est ça aussi qui nous a complètement désamorcé, nous, en France. C'est qu'on était là, le discours, en fait, pas d'amalgame en 2015 et tout. Après les attentats, il était là, non mais pas d'amalgame, c'est du terrorisme, c'est des fous, c'est pas ça l'islam et tout. Non, en fait, ces gens ont essayé de désactiver en nous la réflexion logique de comprendre qu'en fait, derrière ces attentats, il y avait des buts politiques. C'était d'instaurer, je sais pas quoi, de terroriser pour que la France arrête d'attaquer l'État islamique. Il y avait des buts politiques. En fait, le terrorisme, ce qui est pour ça que il y a des méthodes terroristes, mais il n'y a pas d'organisation purement terroriste. Oui, c'est des groupes terroristes parce qu'ils n'utilisent que ça, mais. Derrière des buts politiques bien précis, et le Hamas ne fait pas que du terrorisme, c'est pour ça aussi qu'il faut rappeler que c'est pas que ça. Bon, désolé, je m'embrouille, mais j'allais conclure le podcast. Tout ça pour dire que voilà, les Mélenchon, en fait, Ce débat, on peut l'avoir sur est-ce que c'est un groupe terroriste, etc. Il emploie des méthodes terroristes, mais que c'est pas terroriste. Mais c'est pas que terroriste. Oui, on peut l'avoir. Mais en fait, 3 jours après le massacre de 1000 Israéliens, on peut pas venir débattre de ça. Genre, c'est infect. C'est infect. Et on se dit, en voyant cette horreur, ces gens qui, pour des raisons électorales, parce que ils ont besoin de cet électorat musulman qui s'abstient énormément et qui vote en majorité pour eux, ils ont besoin, ils pensent que ça va le rameuter. Peut-être que c'est pertinent, peut-être que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, ils y croient. Parce qu'ils ont refusé coûte que coûte de dénoncer cette folie des Palestiniens et du Hamas. Parce que oui, il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi des gens qui ont applaudi quand il y avait des civils qui étaient capturés, qui étaient violés ou à moitié démembrés. Il y a des populations qui applaudissent, il y a des populations qui se rendaient fiers que leurs enfants aient massacré des civils israéliens. Même si, voilà, je dis ça, je dis pas que les Gazaouis méritent ce qui leur arrive. Mais voilà, et donc je ferai un épisode pour expliquer pourquoi en fait Mélenchon n'est pas en train de perdre des plumes en fait quand il fait ça. Parce qu'en fait, il est le dernier utopiste de la gauche. Et en fait, la gauche est sur une utopie. La gauche est une utopie depuis le départ. La gauche a voulu créer depuis le départ un homme nouveau. Elle a voulu créer une société nouvelle. Et elle veut atteindre ces sociétés nouvelles par tous les moyens. Et que ça passe par des génocides, que ça passe par des camps de travail comme l'Union soviétique. En fait, toutes les idéologies matérialistes, qu'elle soit nazie, qu'elle soit communiste, qu'elle soit Khmer rouge, maoïste, elles veulent créer une société idéale. Elles ne croient plus en Dieu. Elles ne croient plus que le paradis sera au ciel. Elles croient que le paradis doit être sur la terre. Et elle veut faire venir son monde utopique, égalitaire, communiste, tout ce que vous voulez, sur terre maintenant. Et ces gens sont les derniers utopistes. Et en fait, et on pourra détailler ça dans un autre podcast, et ben ces gens, en fait, Mélenchon, ben il leur plaît. Il leur plaît, il leur plaise, voilà. Parce qu'en fait, ils vendent du rêve. Et les gens ont besoin de rêve. L'homme n'est pas que rationnel. L'homme a soif de spirituel, a soif de transcendance. Et cette transcendance, elle passe dans l'utopie. Et pourtant, les utopies du XXe siècle ont donné les pires horreurs, les pires horreurs. Mais l'homme a besoin de cette transcendance, de voir plus loin, de rêver d'un monde meilleur, parce qu'il ne rêve plus du paradis, il ne rêve plus de l'au-delà. Qu'il soit catholique ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, les utopistes comme Mélenchon, comme cette extrême gauche, eh ben, ont un écho, et même dans le français le plus taiseux parfois. Donc voilà. Ce sera l'occasion même si je l'ai quand même pas mal développé cette idée, mais ce sera l'occasion d'un podcast. Et pourquoi, en fait, alors que Mélenchon mériterait d'être à 2%, parce qu'on a le sentiment qu'un discours aussi horrible. Le surlendemain de l'attaque du Hamas, ne pas reconnaître que tout ça est terroriste, c'était infect, cette espèce de surenchère anti-israélienne, etc. Oui, ça devrait le mettre à 2%, mais en fait, non, ça le mènera à plus de 20%, comme ça l'a été en 2022. Et malheureusement, en fait, Mélenchon est à 200 000 voix, il me semble, ou 300 000 voix de Marine Le Pen. Il talonne de quelques points dans les scores. Pour lui, il était à 2 pas du second tour. C'est horrible pour lui. En fait, il veut s'accrocher. Et en fait, les musulmans votent majoritairement pour lui, mais ils s'abstiennent en masse. C'est eux qui s'abstiennent le plus dans le corps électoral, en gros, en groupes sociaux. Et en fait, il a un réservoir de voix, vu que les musulmans votent beaucoup pour lui, il a un énorme réservoir de voix chez lui. Et qu'est-ce qui touche principalement, on va dire, dans les grandes causes tiers-mondistes chez les musulmans? Parce que bon, c'est à peu près le. Voilà, personne n'est tiers-mondiste à part les gros gauchistes. Le seul tiers-mondisme qui se conçoit, c'est le tiers-mondisme de l'Oumma, donc être solidaire des Palestiniens quand on est musulman et solidaire des chrétiens d'Orient quand on est chrétien, quoi. C'est un peu ça. Ça se limite un peu à ça, un tiers-mondisme qui se conçoit. Et donc, la cause palestinienne, bah, il ne s'agissait vraiment pas d'aller froisser cet électorat. Bref, il y a des buts électoralistes derrière tout ça. Pas sûr que ça soit très pertinent, mais en tout cas, il joue la carte à fond. Mais il y a aussi un électorat français de profs, de fonctionnaires, parce que beaucoup de gens votent pour leurs intérêts, parce qu'eux, ils veulent continuer à arroser les fonctionnaires, à maintenir, à en embaucher plus, alors que c'est une ruine totale. C'est des gens qui n'aident pas l'État. Au fait, au final, c'est un échec. Et je vous invite à regarder le documentaire de Contribuables Associés, qui est fantastique. Il y a 1h40 de débunkage de la dette publique et de comment une caste de hauts fonctionnaires et même des privilèges syndicaux. Il y a 5 millions de fonctionnaires. L'État est quasiment le premier employeur dans ce pays. C'est hallucinant. Bref, bon, je fais que digresser, donc je vous laisse. Il est tard le soir en plus. Ça a été long, mais on a plein de choses à aborder, alors que l'actu est complètement folle. Mais voilà. Allez, à bientôt, chers amis, et faites-moi vos retours et partagez ce podcast. Ce podcast, ça m'aide. Merci beaucoup. À bientôt.